Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la polémique sur le manque de masques au début de l'épidémie ressurgit.
Un rapport du Sénat met en cause le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Les détails dès le début de ce journal. Le Brexit toujours dans l'impasse. Il reste 21 jours pour trouver un accord. Et puis à la fin de ce journal, un exemple pour les petits Français qui sont nuls en maths.
RTL Matin.
Son visage et sa voix nous accompagnent depuis le début de l'année, depuis l'apparition du coronavirus. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, l'homme qui relativisait l'importance des masques au printemps dernier, souvenez-vous.
Les masques soignants sont réservés aux soignants et l'État a toujours été clair sur ce point. Et il ne faut surtout pas imaginer que le masque est l'arme unique.
À l'époque, il fallait encore se battre pour en trouver des masques. La France n'était pas armée, il n'y avait pas les stocks. Et alors que la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise rend aujourd'hui son rapport, des révélations pourraient embarrasser le puissant directeur général de la Santé. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
D'après Le Monde, Jérôme Salomon a tenté de faire modifier un rapport d'experts qui préconisait un achat massif de masques en cas de pandémie.
Rapport remis à Santé publique France en août 2018. Que dit-il ? En cas de pandémie qui toucherait 30% de la population française, il faudrait prévoir 50 masques par foyer à raison de 20 millions de boîtes, soit au total 1 milliard. Le directeur de la Santé publique demande donc à Jérôme Salomon, explique que les stocks dont dispose la France ne sont pas suffisants, c'est bien la preuve. Problème, au même moment, le directeur général de la Santé, qui ne veut pas d'un stock dormant de masques qu'il faudrait jeter régulièrement, donne le feu vert pour une commande de 50 millions. On est bien loin du milliard recommandé par les experts. S'en suivent alors des échanges de mails. Jérôme Salomon trouve la position de ses spécialistes délicate et risquée et demande de modifier la rédaction de certaines formulations. Le directeur de Santé publique France défend l'indépendance des experts. Finalement, le rapport est publié tel quel en mai 2019 avec le fameux chiffre d'un milliard de masques. Mais pour les sénateurs, c'est une pression directe du directeur général de la Santé qui n'a pas encore réagi aux accusations des parlementaires.
Merci beaucoup pour ces précisions, Sophie Orange. Une enquête ouverte après la cyberattaque ayant visé l'Agence européenne du médicament qui doit statuer avant la fin de l'année sur les vaccins. Et durant cette attaque, dont la date n'a pas été précisée, on l'a appris, des documents liés à Pfizer-BioNTech ont été piratés.
Les fêtes de fin d'année sont-elles menacées? En tout cas, début de réponse ce soir.
Nouvelle conférence de presse de Jean Castex à 18h. Et en général, quand le Premier ministre prend la parole, ce n'est pas pour annoncer de bonnes nouvelles. Une certitude. Le nombre de cas positifs en France a dépassé hier la barre des 14 500, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 25 novembre. Logiquement, beaucoup de Français, pour avoir l'esprit tranquille, ont prévu de se faire tester juste avant Noël. Gare aux embouteillages, Agathe Landais.
Oui, et cela inquiète forcément les laboratoires, car pas moins d'un quart des Français souhaitent se faire tester avant Noël, selon cette étude. Cela ferait donc des millions de personnes à tester en quelques jours seulement. François Blanchecotte est le président du syndicat national des biologistes.
On ne souhaiterait pas qu'il y ait d'un seul coup 10 millions de Français à dépister. Aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité d'absorber ce nombre de patients en si peu de temps. Donc on essaye de se préparer, mais dans le meilleur des cas, en 4-5 jours, on pourra au faire maximum 1 à 2 millions de tests, pas plus.
Et ces tests, ils doivent aller en priorité aux personnes qui ont des symptômes du Covid et aux cas contacts asymptomatiques. Les biologistes appellent donc la population à la responsabilité. Il faut absolument éviter les tests de confort, simplement pour se rassurer, sous peine de revoir les interminables queues devant les laboratoires juste avant les fêtes.
Des fêtes pour se faire plaisir et aussi faire plaisir aux autres, surtout en ces temps troublés. Ayons une pensée pour ces personnes âgées qui resteront isolés à Noël en leur offrant des gourmandises. C'est l'initiative de ces grands pâtissiers parisiens. Écoutez ce reportage de Gauthier Delon-Bugard.
Les petits choux garnis de cacao, de pistaches, les cakes aux élégantes ganaches brillent sous les lumières derrière la vitrine. L'entrepreneur William Assouline et le chef pâtissier Nicolas Paciello sont les propriétaires de la pâtisserie 500.
Les gens auront la possibilité d'offrir du coup à un aîné isolé le moelleux noisette, soit le moelleux vanille.
Participer nous aussi à rompre l'isolement des personnes âgées, ça ne paraissait effectivement essentiel.
On participe à l'opération Noël étoilé.
Ah mais c'est une excellente idée, ah oui.
Une cinquantaine d'établissements participent à l'initiative. Marie, la fondatrice de l'association Étoilée et Solidaire, se charge de livrer les gourmandises.
Oui, oui.
Nous sommes chez Madeleine, 75 ans.
Aujourd'hui, il y avait deux petits pochons, deux petits sablés. Et des Parisiens vous ont mis des petits mots.
Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, Olivia. C'est plus qu'un gros cadeau, hein. C'est un geste voilà, qui prouve qu'on existe. Ma famille ne vient pas me voir. Je vois simplement une voisine. Pensez à nous. Ça fait partie de cet esprit de fête, puisque moi, comme j'arrive plus à me déplacer toute seule depuis le confinement, je ne pourrai pas descendre dans ma famille qui est en province.
À Noël, la retraitée devrait recevoir un panier surprise, de quoi rompre l'isolement.
Ah, je suis très, très gourmand.
Le temps d'un réveillon.
Gauthier Delon du Gard. Ce n'est pas la crise pour tout le monde. Vous serez heureux d'apprendre que les 650 milliardaires américains se sont encore enrichis depuis le début de la pandémie. Grâce au rebond des marchés, leur fortune globale a progressé de plus de 1000 milliards de dollars. C'est plus que le montant du plan de relance américain. Parmi les heureux élus, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos et Bill Gates. Un nouvel élevage de canards contaminé dans les Landes par la grippe aviaire à Saint-Jours-de-Marennes. C'est le deuxième en quelques jours. 6000 palmipèdes ont déjà été abattus cette semaine dans un autre élevage situé à une dizaine de kilomètres de là.
Et pendant ce temps, on l'oublierait presque, le Brexit est toujours dans l'impasse. On y revient dans un tout petit instant. Restez avec nous, il est 8h07.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Malgré les sourires de façade, hier soir à Bruxelles, la situation est toujours dans l'impasse sur le front du Brexit.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont dîné ensemble pour tenter de trouver un accord commercial, alors que le Royaume-Uni doit définitivement quitter le marché unique le 31 décembre. Alors ils ont bien mangé, mais il n'y a pas eu d'accord. Bonjour Bénédicte Tassard. Concrètement, qu'est-ce qui bloque là, à l'heure où l'on parle ?
Trois dossiers, toujours les mêmes. Le plus gros, les règles de commerce équitables, que les entreprises britanniques ne bénéficient pas d'aides d'État, que leurs normes environnementales ou fiscales soient les mêmes que sur le continent. Deuxièmement, le règlement des litiges, qui va arbitrer ? Et enfin, bien sûr, la pêche. Les Britanniques ne veulent toujours pas nous laisser le même accès qu'aujourd'hui dans leurs eaux poissonneuses.
Et ils ont mangé du poisson d'ailleurs hier soir, un clin d'œil. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Le temps presse.
Alors, Boris Johnson ne veut pas laisser inexploré le moindre chemin vers un accord, indiquait encore hier soir Downing Street. À Bruxelles, on laisse échapper que la politique, eh bien, c'est l'art du possible. Jusqu'à dimanche, les négociateurs européens Michel Barnier et britannique David Frost, pourtant épuisés, vont estimer si des avancées sont encore possibles sur ce texte de 600 pages. Et si c'est oui, les négociations pourraient continuer. Ensuite, s'il y a un accord, ce dernier devra être transposé en termes juridiques, puis adopté au Parlement britannique et au Parlement européen avant le 31 décembre minuit. Les eurodéputés ont déjà inscrit dans leur agenda une session extraordinaire juste avant la Saint-Sylvestre. On verra alors s'ils ont une bonne raison de sabrer le champagne.
Il y en a qui vont passer de bonnes fêtes. Merci beaucoup Bénédicte Tassard. Aux États-Unis, Hunter Biden, le fils du président élu et tête de turc de Donald Trump pendant la campagne, visé par une enquête sur sa situation fiscale pour ses affaires en Ukraine et en Chine. Il affirme être confiant et que tout a été fait de façon légale. Victoire 5-1 pour le PSG hier soir au Parc des Princes contre les Turcs de Başakşehir, mais l'intérêt était ailleurs. Au lendemain de la polémique sur des propos jugés racistes, le match avait été arrêté. Les joueurs ont posé un genou à terre hier soir. Un geste devenu symbolique depuis le mouvement Black Lives Matter.
On termine avec la une du jour.
Le sourire conquérant d'une adolescente à la une du magazine américain Time, qui a décidé d'honorer pour la première fois son histoire l'enfant de l'année. Elle s'appelle Jintanjali Rao. Elle a 15 ans et elle a inventé un appareil permettant de détecter la présence de plomb dans l'eau potable. Son portrait avec Lionel Gendron.
De l'intérêt de bien choisir ses cadeaux de Noël. À 5 ans, l'oncle de Jintanjali lui offre un kit de chimie. Elle ne le lâche pas de la journée. 5 ans plus tard, elle a une passion rare à son âge, les capteurs à nanotubes de carbone. Elle crée un appareil pour détecter le plomb dans l'eau, ce qui lui vaut le premier prix des jeunes scientifiques à 12 ans.
Tout le monde devrait avoir le droit de savoir ce qu'est l'eau potable et y avoir accès. Et cette invention peut vraiment aider.
Des parents ingénieurs, d'origine indienne, Jintanjali a une intelligence hors norme et vaste, car elle a aussi développé une application contre le cyberharcèlement involontaire. Vous vous apprêtez à publier un contenu offensant, l'application vous le signale et vous propose une alternative. L'adolescente a aussi écrit deux livres, donne des conférences. Oui, Jintanjali Rao a seulement 15 ans.
Ouais, merci Lionel Gendron, et ça fait réfléchir hein, quand on sait que les petits Français sont derniers en maths dans les derniers classements européens.
C'était le journal de Jérôme Florin, notre météo avec vous Marina Giraudot.
Et de la fraîcheur sur les
l'est du pays. Là, en ce moment, on a par exemple moins 15 degrés à Barcelonnette. Bon, on est à plus d'une altitude. Il a beaucoup neigé, donc le ciel est clair. Tout ça favorise la baisse des températures. Sur le reste de la moitié est, on est entre moins 4 et 4 degrés. Il faut aller sur l'ouest pour avoir des températures plus douces. 13 en ce moment à Biscarrosse, 10 degrés à Brest. Cet après-midi, on aura ce même contraste, à savoir 3 à Metz, mais 14 à Bordeaux. Il fera sinon 5 à Lille, 7 à Paris, 10 à Cherbourg. Et côté ciel, on a une perturbation pluvieuse qui est en train de traverser le pays. Elle s'étend de la Normandie, Île-de-France, au centre jusqu'aux Pyrénées, à la Méditerranée. Elle va laisser tranquille le Grand Est et puis les départements alpins. Et puis à l'arrière, on a un ciel de traîne avec une alternance de nuages, d'averses, mais aussi d'éclaircies, du vent aussi sur les côtes.